Jérôme Cadet, le 18-20.
Hier soir, la reine Elisabeth II a appelé les dirigeants du monde entier à faire cause commune face au réchauffement climatique. En raison de son état de santé, elle n'a pas fait le déplacement à Glasgow pour la COP, mais elle a livré un message très clair dans une courte vidéo, évidemment très commentée. Objectif, faire pression sur les différents pays représentés en Écosse. Contrairement à ce qu'on pense, la reine joue un rôle politique. C'est votre monde d'après, Franck Madvon.
Alors bien sûr, Jérôme, les spécialistes de la royauté vont bondir. La reine n'est pas une femme politique. Au Royaume-Uni, un pays qui n'a pas de constitution codifiée, contrairement à la France, le monarque incarne l'État. Il ne doit pas exprimer ses opinions. D'ailleurs, la reine ne vote pas et ne peut évidemment pas se présenter à des élections. Et la plupart du temps, soyons clairs, elle s'emploie à ne rien dire. Hier soir pourtant, dans une vidéo de 4 minutes diffusée à Glasgow, face aux dirigeants du monde entier, vous le disiez, la souveraine de 95 ans a tenu un discours beaucoup moins creux que d'habitude.
It is the hope of many that the legacy of this summit will describe you as the leaders who did not pass up the opportunity and that you answered the call of those future generations.
Voilà, traduction, nombreux sont ceux qui espèrent que l'héritage de ce sommet vous décrira comme les dirigeants qui n'ont pas laissé passer l'occasion et ont répondu à l'appel des générations futures. Difficile pour un chef d'État d'ignorer un tel message. La reine demande des mesures significatives pour sauver la planète. Elle exhorte les dirigeants mondiaux à agir. Elle fait appel à leur qualité d'homme d'État. Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, dit-elle aussi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. En prononçant ces mots, dans une tenue verte de circonstance, Elisabeth II fait de la politique.
La reine a-t-elle rédigé elle-même le message qu'on vient d'entendre ?
Alors non, ça ne fait aucun doute. La reine lit des textes rédigés par d'autres, le gouvernement, des conseillers. Elisabeth II est dans ce cas un instrument au service de la politique britannique. C'est l'un de ses rôles, mais ça ne fait pas pour autant d'elle une marionnette. La reine adhère au discours qu'elle prononce. Elle y met un minimum de conviction avec la retenue qui doit caractériser un monarque, bien sûr. Elle a pour fonction de rassurer, de rassembler les Britanniques, par exemple dans les périodes de crise. Ce fut le cas l'an dernier, à Pâques, en pleine pandémie. Le coronavirus ne nous vaincra pas, dit-elle alors. Parfois, le rôle qu'on lui demande de jouer est encore plus exigeant. En mai 2011, la reine se rend en Irlande. La première visite sur place d'un monarque britannique depuis un siècle. Un rendez-vous historique pour œuvrer au rapprochement entre Londres et Dublin. Les deux pays ont été en guerre. L'Irlande a été coupée en deux en 1921. Le conflit nord-irlandais a fait plus de 3000 morts. La visite est soigneusement chorégraphiée et Elisabeth II tient parfaitement son rôle. Elle dépose une gerbe au jardin du souvenir à la mémoire des Irlandais tombée contre l'Angleterre. Elle prononce un discours qui scelle la réconciliation entre les deux pays et improvise même un bain de foule à Cork, un bastion des Républicains.
Mais il arrive que la reine laisse transparaître ses propres opinions politiques ?
Oui, alors la reine ne s'autorise aucune fantaisie lors des rituels politiques auxquels elle participe, rassurez-vous. Hein, tout est millimétré lors de son discours annuel d'ouverture de la session parlementaire. Elle contresigne les lois, elle donne son « royal assent », mais certainement pas son avis. En revanche, elle rencontre chaque semaine son Premier ministre, des rendez-vous ultra confidentiels qui ont été imaginés dans des livres, des films ou des séries télé. On pense à The Crown, par exemple. On sait que la reine peut y donner, là, un conseil, un avis. Les relations avec ses premiers ministres ont parfois été cordiales, comme avec le travailliste Harold Wilson, qui a occupé le poste à deux reprises dans les années 60 et 70. Ses relations étaient plus houleuses avec Margaret Thatcher. En 86, un article du très sérieux Sunday Times avait fait beaucoup de bruit. On y apprenait que la reine jugeait le gouvernement trop dur avec les plus défavorisés et qu'elle regrettait l'indulgence de Maggie avec l'apartheid en Afrique du Sud. Elisabeth II peut aussi s'engager discrètement pour une cause politique qu'elle défend. Exemple, en 2014, avant le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, elle appelle les électeurs à bien réfléchir. Un message limpide pour les unionistes, c'est un non à l'indépendance. Et le nom l'emportera d'ailleurs. David Cameron révélera plus tard qu'il avait demandé un coup de pouce à la reine. La souveraine est donc plus politique qu'on ne le croit, mais sa neutralité reste une règle d'or. Charles, son successeur, se mêle beaucoup plus de politique, ce qui inquiète d'ailleurs les constitutionnalistes. Régner sans gouverner, c'est un métier.
Le Monde d'après, signé Franck Madvon. Ce soir, merci Franck, à demain.